Ok, chers amis, aujourd'hui pour le cours de Mishnah Brura, on va faire à l'oral, on va faire les halakhot de Purim. Donc si on parle d'halakhot de Purim, je vais d'abord parler des dinim de Taanit Esther, les dinim du jeûne. Normalement, on nous dit que on n'a pas le droit de jeûner la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, on n'a pas le droit de jeûner. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de fixer un jeûne à la veille de Shabbat, sauf si le jeûne était déjà tombé à cette date. Par exemple, comme ce qui s'est passé à Sarah Bethévet. Le dit Tevet, qu'on a eu donc cette année, il est tombé la veille de Shabbat, donc on devait jeûner la veille de Shabbat. Mais, cette année, c'était un vendredi, mais cette année, étant donné que le jeûne d'Esther aurait dû tomber la veille de Shabbat, et que toutes les façons de le repousser, alors tant qu'à faire, si on repousse, on ne repousse pas à vendredi, mais on repousse à jeudi. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle on jeûne jeudi et pas vendredi. Maintenant, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on jeûne?
Merci.
Oui, non, ce que je veux dire, c'est que si le jeûne tombe vendredi, dans ce cas-là, on jeûne vendredi. Et si le jeûne tombe Shabbat et qu'on doit déjà le repousser, tant qu'à faire, pour repousser, on ne va pas le repousser à vendredi, mais on va le repousser carrément à jeudi, comme ça, on ne jeûne pas la veille de Shabbat. C'est-à-dire que la veille de Shabbat, on évite de jeûner. Maintenant. On appelle ce jeûne le jeûne d'Esther, le Taanit Esther. J'ai déjà fait un petit peu un cours sur sa Shabbat, mais là on va développer un peu plus. Pourquoi on appelle ce jeûne le Taanit Esther? Le Taanit Esther, alors en vérité, le terme Taanit Esther n'est pas vraiment juste. On va expliquer tout de suite pourquoi. On sait que à Mordechai avait donné l'ordre avec Esther que tous les juifs se rassemblent le 13 Adar, Leilachem, Velamod al-Nafsham, pour se battre et donc pour se défendre. D'accord. On sait qu'on a des preuves qu'à l'époque, alors on n'a pas des preuves qui s'est passé à l'époque de Esther, mais on sait qu'à l'époque, chaque fois qu'il y avait une guerre, on jeûnait toujours le jour de la guerre. De manière générale, c'était les guerriers eux-mêmes qui jeûnaient le jour de la guerre. Et quand c'était pas possible, c'était au moins des gens qui les représentaient qui jeûnaient à leur place. Voilà ce que je dis. En général, c'était les guerriers eux-mêmes qui se battaient. Et si c'était pas possible, c'était au moins des gens qui le représentaient, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui allaient se battre, d'autres gens qui restaient à la synagogue et qui jeûnaient ce jour-là. Donc, écoutez le développement que dit Mishnah Brura, qui est tiré de la Gemara. Il dit, puisqu'on sait que les Bnei Israël se sont battus le 13 Adar, donc certainement qu'ils ont jeûné. Certainement qu'ils ont jeûné. Et puisqu'ils ont jeûné, nous, on va aussi jeûner pour se rappeler de l'élan de Teshuvah qu'il y a eu ce jour-là. Pour se rappeler de Kadosh Baruch Hu. Donc vous voyez que c'est un jeûne qu'on s'est basé sur une certitude que, bon, certainement qu'ils ont jeûné. Alors, pourquoi on l'appelle le jeûne d'Esther? Parce que c'est Esther qui avait donné, c'est Esther qui avait fait le plan que le 13, on doit aller se battre. Après, c'est Mordechai qui avait géré tout ça, mais c'est Esther qui avait fait le plan. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le jeûne d'Esther. Mais en vérité, le jeûne n'a rien à voir avec Esther. Parce que Esther, elle a fait un autre jeûne. Avant de venir voir Achashverosh, ça c'est bien avant. Avant de venir voir Achashverosh, elle avait jeûné 3 jours, elle avait donné l'ordre que elle, et toutes ces donc toutes les jeunes filles qui étaient avec elle devaient jeûner 3 jours, d'accord? Oui. Elle a demandé à Mordechai. Mais d'abord, ce qui nous concerne, c'est que elle a jeûné, et elle a demandé que tout le monde jeûne avec elle. Et c'est pas de ce jeûne qu'on parle. Le Taanit Esther qu'on fait aujourd'hui, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah oui. D'accord, ça n'a rien à voir. Le Taanit Esther qu'on fait aujourd'hui, c'est pour se rappeler le fait que lorsque les Bnei Israël sont partis pour se battre et pour se défendre donc de tous les antisémites et qu'on aurait pu appeler ça aujourd'hui, ils ont jeûné. C'était le 13 Adar. D'accord, le 13 Adar on a gagné et on a fixé tout de suite le lendemain, le 14 Adar c'était pour Purim. Voilà. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle
on n'a jamais vu un jeûne comme ça, parce qu'en général les jeûnes c'est quand il y a eu un malheur.
Il y a un téléphone qui sonne. C'est la veste. Bon.
En général, un jeûne, c'est quand il y a eu une destruction, oui, quelque chose.
Ouais.
On jeûne pour ça. Après, mais là,
c'est un jeûne très particulier. Là, c'est un jeûne pour se rappeler de l'élan de Teshuvah que les Bnei Israël avaient le jour de la guerre. C'est un jeûne qui est très positif.
C'est un jeûne joyeux.
Un petit peu, oui. Bah oui, d'ailleurs, c'est.
On peut même à la limite ne pas jeûner.
Non, j'ai pas dit ça.
Pourquoi on jeûne pas pour les autres guerres?
C'est vrai, c'est une bonne question. Parce que là, ce qui est de particulier dans Purim, c'est qu'il y a eu un élan de Teshuvah extraordinaire qu'on n'a jamais vu. À tel point que la Gemara Megillah nous dit que l'élan de Teshuvah était tellement fort que si on devrait comparer ce qui s'est passé à Purim et ce qui s'est passé à Bayit Mitzrayim quand on a reçu la Torah, la Gemara nous dit que c'est écrit Kiimu ve Kiblu Ayehudim. Que à ce moment-là, les Bnei Israël, ils ont ils ont accompli et ils ont reçu. La Gemara dit c'est pas comme ça qu'il faut lire. Il faut écrire Kimou Mash et Kiblou. Il faut comprendre que les Bnei Israël se sont retrouvés à ce moment-là à Pourim, enfin avant Pourim, à accomplir ce qu'ils avaient déjà accepté. Qu'est-ce qu'on a accepté? On a accepté la Torah. Mais quand on a accepté la Torah, on l'avait pas encore mise en pratique. Et Kadosh Baruch Hu, il dit, quand est-ce qu'on a réellement mis la Torah en pratique? C'est à Pourim. C'est-à-dire, il y a eu un tel élan de Emouna que Kadosh Baruch Hu l'a dit, ah, c'est seulement maintenant que vous avez mis en pratique ce que vous avez reçu. D'accord? Matan Torah, ça veut dire, pratiquement 1000 ans en arrière. C'est seulement maintenant qu'ils ont reçu la Torah. Donc c'est très important. Et c'est pour se rappeler de cet élan de Teshuvah, de cet élan de Teshuvah qu'on fait ce jeûne d'Esther. Alors, je reprends ce que dit Charlie. Charles a dit, finalement, ce jeûne n'est pas si important que ça. D'accord? C'est vrai. Alors, je vais lire dans les mots. C'est le Rama qui rajoute pour les Ashkenazis. Mais bon, a priori, les Sfaradis sont d'accord. Il dit, Veta Nizo Enachova.
Enachova.
Attendez.
Ah.
D'accord? Vétanit n'est pas... Attendez, j'ai pas fini. Vas-y, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vétanitzo enachova, ce jeûne n'est pas obligatoire comme les autres. Vous allez voir tout ce qu'il va dire. Attention, c'est pas fini. Ne partez pas tout de suite parce que j'ai pas fini. La reine, c'est pour ça. Yesh le akelbo be'et atzorer. Ça veut dire, il y a des jeûnes qu'on considère obligatoires, et il y a des jeûnes qu'on considère qu'on doit les faire, mais qui sont facultatifs. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que si je veux, je jeûne pas? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que, bête à tsorer, quand il y a un fort besoin, par exemple, quand on a une femme enceinte, ou quand on a une femme qui allaite, ou quand on a cholé chez un bosakana, un malade, mais qui n'a pas de danger. C'est-à-dire que bon, il peut jeûner, il va rien se passer. D'accord? Alors, il donne l'exemple ici, il dit par exemple quelqu'un, il a très mal aux yeux. Il a très mal aux yeux. Maintenant, quel rapport avec le fait qu'il a mal aux yeux? Mais ça le dérange, il a besoin de manger. Bon. Quel rapport entre le mal des yeux et le fait qu'il n'y a pas de rapport? On lui permet. C'est-à-dire, c'est un jeûne, c'est un des jeunes les plus calmes, les plus light. Pas light, c'est un jeûne très important, mais ça veut dire que c'est un jeûne que dès qu'on a un problème, il n'y a pas de problème, on peut manger. D'accord?
En plus, il faut attendre.
Néanmoins, et là, et c'est pour ça que j'ai dit ne partez pas tout de suite. On dit que dans ce cas-là, même s'il ne jeûne pas, on lui demande de rembourser le jeûne. Ah. Ça veut dire quoi, rembourser le jeûne? Alors, rembourser le jeûne, ça veut dire, on dit, y a pas de problème, tu as mal aux yeux, y a pas de problème, mais dans un mois, ça ira mieux, et ben tu rembourses, il y aura un jour dans lequel tu vas jeûner. Ben oui, c'est pas... Ça veut dire, c'est quand même quelque chose qui a été instauré par les Chachamim, qui a été instauré par le Sanhedrin, c'est pas rien. Voilà. Alors, il y a aussi un autre cas, s'il y avait une Brit Mila jeudi, il n'y a pas de Brit Mila prévue pour jeudi. D'accord?
On peut s'arranger.
Alors, s'il y avait un Brit Mila... S'il y avait un Brit Mila jeudi, tous ceux qui sont invités au repas, pas seulement le Sandak et le Moël, tous ceux qui sont invités au repas, parce que vous savez que dans la Brit Mila, le plus important c'est la Seouda. Je vois des gens qui viennent à la Brit Mila, ils croient que le plus important c'est d'assister à la circoncision, et après pour la Seouda ils s'en vont. Le plus important, et le moment dans lequel les Onavi restent, et toutes les brachot qu'on a, c'est quand on participe à la Seouda de la Brit Mila. C'est vrai que c'est très important de manger quelque chose à la Brit Mila. Donc si on avait une Brit Mila cette année jeudi par exemple, donc on a des gens qui sont invités, bien qu'on n'invite pas pour une Brit Mila, mais bon, il y a des gens qui sont là. Des gens qui sont là. Tous ceux qui sont là sont pas tour de jeûner le jeûne de Tanit Esther. Par contre.
On dit le Sandak qui a bien fait.
Non. Tout le monde. Kol Anashim Akruim. Attendez. Seconde. Mais ils devront le rattraper le lendemain.
Et le lendemain, c'est horrible.
D'accord.
Le lendemain,
Aïnou, Kol Anashim Akruim la Seouda, va filou yoter me asara.
Comment ils font les michetés?
D'accord. Comment ils font?
C'est-à-dire? Le lendemain, ils font les michetés.
Oui. Ah, le lendemain, non, le lendemain dans le cadre de cette année, parce que c'est jeudi, qu'on reporte à vendredi.
Un autre jour.
On rattrape. D'accord. Oui. Oui. Qui pour, oui.
Ah, t'es d'accord? Comment ils font
des... Non, qui pour, on peut pas.
Hein?
Qui pour, on touche pas.
Non,
on
touche pas. Yeah.
Comment?
Qui pour, on mange pas, qui pour.
Oui, mais
non, le kidouche, le
bal. Non, personne.
Alors, qui pour?
Personne mange.
Alors, comment ils font?
On boit pas. On donne un peu à goûter au bébé, c'est tout. On donne un peu à goûter au bébé. Le bébé, il goûte un petit peu. Y'a? J'ai déjà cité Fabrice quand j'étais un petit peu. C'est obligatoire?
C'est quoi? Quoi? Celui qui veut la bracha sur le kidouche, il goûte quand même à Kippour.
Non, personne. Non.
On fait pas le kidouche à Kippour.
Ah non, on fait pas.
On fait pas le kidouche.
Alors on continue. Allez messieurs, on y va. Alors, maintenant on va parler de... Maintenant qu'on a parlé de Tanit Esther, bon, Tanit Esther c'est relativement simple. Maintenant on va parler de la Megillah. On va parler de la Megillah. Pardon, de la Megillah. Donc on a l'obligation de lire la Megillah deux fois. Laïla Vayom. Ça avait été instauré comme ça dès le départ, qu'on a l'obligation de se rappeler du miracle, donc de lire la Megillah le soir et le jour. Ce que j'entends par le soir, c'est qu'il faut attendre la sortie des étoiles. Donc là, cette année, c'est pas compliqué, puisque de toutes les façons, on doit attendre la sortie de Shabbat. Mais il y a des fois dans lesquelles c'est un peu plus compliqué, parce que c'est en semaine, on a toujours l'obligation d'attendre 7 akochavim, la sortie des étoiles. D'accord ? Si c'est pas possible, posez la question. Il y a des fois des permissions, mais c'est très compliqué. De manière générale, il faut toujours attendre 7 akochavim, la sortie des étoiles. Donc on lit la Megillah deux fois. Le soir et le jour. Dès que l'heure de la Megillah est arrivée, on arrête tout. Et qu'est-ce qu'un juif a de plus important dans sa vie ? C'est l'étude de la Torah. Même l'étude de la Torah, on arrête pour lire la Megillah. Bien qu'on aurait pu lire la Megillah un peu plus tard. Je pense que c'est pas grave, il y a plusieurs lectures, on peut lire la Megillah un peu plus tard. Dès qu'arrive l'heure de la Megillah, on stoppe tout pour étudier la Torah. La seule chose qu'on n'arrête pas pour la Megillah, c'est si Dieu préserve, on marche dans la rue, et on voit une personne qui est décédée, et qu'il n'y a personne pour s'en occuper. Ce qu'on appelle, en hébreu, le met mitzvah. Là, dans ce cas-là, celui-là, d'abord on l'enterre, après on fait la Megillah. C'est seulement dans ce cas extrême qui repousse la lecture de la Megillah. Tous les autres cas, il n'y a rien qui repousse la Megillah. Rien au monde qui repousse la lecture de la Megillah. Dès que l'heure de la Megillah est arrivée, d'accord ? Tout de suite, on s'occupe de la Megillah. Ni on mange, ni on boit, ni on dort, rien. Tout de suite, on s'occupe directement de lire la Megillah. Ok. Bon ? Il y a la première lecture, exactement. Oui. Le soir jusqu'à Moudachara. Et la Megillah du lendemain, on démarre à partir du Netzachama. Quand Netzachama, c'est dès que le soleil commence à briller. Voilà. Oh, mais là, Baruch HaShem, le soleil, le jour, il se lève tôt en ce moment, Baruch HaShem. Ok, alors je continue encore, donc toujours sur la lachot de Pourim. Ok. Oui. Alors, tout le monde a l'obligation de lire la Megillah. Quand je dis tout le monde, ça veut dire homme, femme, d'accord ? Bien que normalement, on a un principe que les femmes, ils sont exemptées des mitzvot shazman grama, des mitzvot qui dépendent du temps. Or, la Megillah dépend clairement du temps. Il y a un moment qui est défini pour la lecture. On est quand même, les femmes sont quand même obligatoires, donc assujetties à la mitzvah de lire la Megillah. Pourquoi ? Puisque, comme l'explique la Gemara, dit chez Af en Ayub Oto Anes, parce que les femmes ont également participé à ce miracle. Bien sûr, c'est qui la star de la Megillah ? C'est Esther. Donc c'est pour ça que les femmes, c'est comme Hanouka, ont l'obligation de participer à Purim, et c'est pour ça que les femmes ont également l'obligation d'écouter la Megillah. Même si c'est une femme qui est enceinte, qui sent pas bien, etc., ben, y a pas de problème, on appelle le Beit Lubavitch et on lui envoie une équipe de lecteurs pour lire la Megillah. Donc, c'est très important, tout le monde a l'obligation de lire la Megillah, et des gens ils pensent, quand je suis malade, tant pis. Aujourd'hui, au prochain, il n'y a plus d'excuses. Même celui qui est fatigué, qui est malade, on lui envoie des équipes qui vont lire la Megillah. Ce qui compte, c'est écouter la Megillah. Minyan, c'est optionnel. Ce qui compte, c'est écouter la Megillah. Donc tout le monde a l'obligation, tout le monde, Anashim, Nashim, Gerim, Bavadi, tout le monde, d'accord ? Ça veut dire, donc les hommes, les femmes, les esclaves, tout le monde a l'obligation d'écouter la Megillah. Et plus que ça, maintenant vous allez comprendre la raison pour laquelle on amène les enfants à la synagogue, puisque c'est écrit explicitement que « Mechandrim et Taktanim Mikrota » on éduque les enfants, depuis petits, à lire la Megillah, et donc aujourd'hui à écouter la Megillah. Alors quand je dis « lire la Megillah », le Chazan il dit « Al-Mikra Megillah », mais l'obligation n'est pas forcément de lire la Megillah, l'obligation est soit de lire, soit d'écouter la Megillah. Pourquoi ? Parce qu'entendre la Megillah est considéré comme si qu'on l'avait lu. C'est pour ça que celui qui lit la Megillah doit être une personne qui est autant assujettie que nous à la mitzvah de la Megillah. Par exemple, s'il y a un enfant qui a 12 ans, qui lit très bien la Megillah, est-ce qu'il peut me rendre quitte pour la Megillah ? Non. Pourquoi ? Parce que ne peut me rendre quitte pour la Megillah uniquement quelqu'un qui lui-même est autant assujetti que moi. Or, le Katan n'a pas l'obligation de la Megillah. Même s'il va écouter la Megillah, c'est seulement par éducation, par chinour, pour que plus tard, lorsqu'on arrivera à 13 ans, il comprendra qu'il a l'obligation. D'accord ? Mais il peut pas me rendre quitte. C'est pour ça que celui qui lit la Megillah, on doit faire attention que ce soit quelqu'un qui soit... Si c'est possible de mettre les téléphones, s'il vous plaît, sur vibreur et sur... voilà.
Une femme peut apporter le café.
Une femme peut quitter des femmes. Merci beaucoup. Pas au fait d'adonner le problème, chacun évite.
Tu veux pas ?
Merci beaucoup.
Une femme peut dire la médecine.
Ou alors tu amènes.
Est-ce
qu'elle a l'obligation aussi ?
Alors, c'est intéressant comme question, hein, parce que c'est la Gemara Megillah qui en parle. Elle dit que comment ça se fait que Mais bon, je vais pas rentrer dedans, hein, mais elle dit, comment tu sais qu'une femme ne peut pas être Shliar Tibour, officiant? Elle dit, Mipne Kevod à Tibour.
Oui.
Par respect pour le Tibour.
Et pour d'autres femmes, alors?
D'accord.
Par respect pour le Tibour.
Elle peut le dire pour d'autres femmes?
Bon, ne répétez pas vos femmes, mais... Ça, c'est gris.
Mendy, elle peut lire
pour d'autres femmes? Oui, bien sûr. Pour l'autre femme, elle peut lire.
Pour d'autres femmes, elle peut lire?
J'ai dit que je ne vais pas rentrer là-dedans. Par respect pour le Thibaut, ça veut dire que c'est, ça veut dire que, je sais pas. J'ai pas envie d'expliquer. Non, c'est pas pour, moi, c'est pas forcément négatif. C'est pas forcément une connotation négative. Je sais pas.
Dieu te bénisse.
Merci beaucoup. Amen.
Pour elle-même, elle peut lire.
Quoi?
Chez elle, pour elle-même, elle peut lire.
Oui.
Elle est qui, ça?
Monsieur? Monsieur? Elle peut lire, pas de problème.
Elle rend qui de l'autre?
Aujourd'hui, on a l'habitude d'expliquer que c'est par qui, c'est par pudeur. Par pudeur. Que le cavode ici s'exprime par la pudeur. D'accord.
C'est
quoi, c'est pas le cas? Ils vont être, ils vont
ouais,
sortir.
Mais le problème, c'est que s'il y a, s'il y a un minion d'hommes et qu'il y a que la femme qui sait lire,
c'est compliqué à expliquer ça aujourd'hui.
Quoi?
Qu'est-ce que ça veut dire?
On comprend bien.
Je viens d'expliquer. Bon, j'ai dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la raison qu'on dit en général, c'est Mishum Tzniut. C'est que par tzniut, c'est que le kavod aujourd'hui, ça veut dire que c'est pas respectueux, ça veut dire que c'est dans le sens tzniut. C'est comme ça qu'on explique ça aujourd'hui. Je sais pas si on a toujours expliqué ça comme ça, mais aujourd'hui on explique ça comme ça. Que kavod à Tibour, ça veut dire que c'est pas pudique par rapport au Tibour. Voilà, c'est ce qu'on explique aujourd'hui. En tout cas, bon, je vais faire la parenthèse. Donc, si vous voulez, après le cours, on développe longuement sur ça. Donc j'étais en train de dire que on peut pas se rendre quitte de la Megillah par un enfant. De la même manière, on peut pas se rendre quitte de la Megillah par une personne qui est sourd-muet ou une personne qui est fou. Alors c'est quoi un fou? Un fou, halakhiquement parlant, on en a parlé il n'y a pas longtemps au cours de Mishnah, un fou, c'est une personne à qui on demande de faire une course et qui n'est pas capable de te faire la course.
Invalide.
Donc il est invalide. Tu lui dis fais-moi une course et...
Il va acheter autre
chose. D'accord. Il n'a pas compris ce que tu lui as demandé. Ça, halakhiquement parlant, ça s'appelle un choté. D'accord. C'est-à-dire qu'on lui demande d'amener quelque chose et qu'il ne l'amène pas. Ça s'appelle un choté. Donc les gens, ceux qui rentrent dans ces trois catégories, Kheresh, Choté, Katan, sourd-muet, donc sourd et muet, ça veut dire qu'il ne peut pas du tout communiquer, Choté, ça veut dire fou, Katan et enfant, dans ces trois catégories-là, ils ne sont pas assujettis entièrement à la lecture de la Megillah, et donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rendre quitte le Kaal pour la lecture,
pourquoi,
pour la lecture de la Megillah.
N'est pas valable.
C'est clair que non, bien sûr que non. Alors l'enregistrement, hein, c'est intéressant l'histoire de l'enregistrement, parce que c'est une question qui a été posée au Rabbanim. D'accord. Que concrètement, la question qui avait été posée au Rabbanim, c'est est-ce qu'on a le droit d'écouter la Megillah à la radio? Là, c'est plus compliqué qu'un enregistrement. Parce que l'enregistrement, peut-être qu'il a été enregistré...
Il y a 3 ans.
Il a été enregistré 2 mois avant Pourim. Mais la radio, c'est live. C'est live. Et la voix que j'entends...
Elle est en direct.
D'accord.
Si c'est en direct.
Si c'est en direct.
Admettons que c'est en direct.
C'est en direct.
C'est une reproduction de...
Alors, c'est une question... Non, c'est pas cachère, justement, c'est une bonne question. Donc c'est une question qui avait été posée, au Rabbanim. Et bon, au début, comme pas tout le monde encore connaissait le système de la radio, donc il y avait des gens qui disaient, c'est cachère. C'est en live, c'est la même voix, c'est en temps réel, il n'y a pas de problème. Mais après, quand on a appris comment ça marchait la radio, et qu'en vérité, comme c'est toi qui as dit, c'est une reproduction. La voix qu'on entend, c'est pas la même voix. C'est pas que les fils ont fait passer la voix, c'est une reproduction. C'est une reproduction de quelque chose qui est passé par les ondes ou qui est passé par des fils électriques. Donc, c'est pas une voix qui vient d'un homme, c'est une voix qui vient d'une machine, donc c'est pas caché. Mais il fut un temps, même avec un micro, on peut pas. Alors, avec un micro, c'est une autre question.
Une déformation de la voix.
Alors, il y a des endroits, aujourd'hui on ne le fait plus avec le micro, mais il y a des endroits dans lesquels on utilisait le micro pour amplifier la voix. Alors c'est quoi le principe qui était donné? C'est qu'il faut que sans le micro, on puisse quand même entendre. Et que le micro ne sert seulement à amplifier la voix, à nous permettre d'avoir un certain confort, de mieux écouter. Mais aujourd'hui, concrètement, on ne le fait pas. Parce que qui va savoir, est-ce que sans le micro, j'aurais entendu ou pas? Donc on n'utilise pas le micro pour la Megillah. Mais je sais qu'il y a des communautés, aujourd'hui encore à Paris, peu importe le nom, dans lesquelles on utilise le micro pour la Megillah. D'accord? Et c'est cachère, à condition que sans le micro, on aurait pu entendre la voix du rave, mais que le but du micro est seulement d'amplifier la voix du rave. Mais je vous dis encore une fois aujourd'hui, on ne le fait pas, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Si sans le micro on n'aurait pas entendu la voix du rave, c'est un problème. Voilà. Donc il est bon aussi également d'avoir bien sûr, d'avoir Minyan pour la lecture de la Megillah. Et ce qui est écrit au Shulchan Aruch aussi, c'est que Berov Am Adrat Melech, que il est, c'est que si on a la possibilité d'être dans un endroit dans lequel il y a beaucoup de monde pour la lecture de la Megillah, d'accord, il est mieux, de, au lieu de le faire chez soi à la maison, il est mieux de venir à la synagogue dans laquelle il y a beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que plus il y a du monde, et plus c'est la gloire d'Akadosh Baruch Hu, qu'on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on est content du miracle de la Megillah. D'accord? Du miracle de ce qui s'est passé à Pourim. Ok. Maintenant, autre chose, autre halakhot. Ah oui. C'est un bon minhag d'amener les petits, donc les petits-enfants et les petites filles pour écouter la Megillah. Néanmoins, d'accord? Il dit le Magan Avraham, il dit à condition de ne pas amener les tout-tout-petits, chez mes Valbelim d'Atachemim, qui peuvent, qu'à cause d'eux, s'ils peuvent embrouiller d'autres personnes pour écouter la Megillah, là c'est un problème. C'est pour ça que si par exemple, il y a une maman qui amène ses enfants, on amène les enfants et qui commence à pleurer, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? On prend, on les sort. Et si on pense qu'ils pourront pas se retenir, eh ben on les amène pas. Et on s'arrange pour avoir un roulement, pour un il vient une lecture, l'autre il vient une autre lecture. Parce que l'enfant, c'est pour Rinour qu'il doit écouter. Mais les adultes, eux, ils doivent écouter. Et comme on verra après, s'il manque quand même un mot, c'est un problème. C'est un problème. Donc, les enfants, on les amène uniquement s'ils ne vont pas déranger ceux qui doivent écouter la Megillah. Maintenant, il dit le Mishnah Moura, il dit, bah, venotez-nous, Arabi, malheureusement, de nos jours, non seulement que les enfants n'écoutent pas la Megillah, en tout cas, c'est à son époque, mais au contraire, ils arrêtent pas de faire du bruit. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il dit que les enfants, on leur dit, alors c'est intéressant, il dit, les enfants, on leur dit que, on fait du bruit seulement quand on dit Haman Hagagi, et que là, il n'y a pas de problème. Éclate-toi, les pétards, est-ce que tu veux, enfin, dans les scénarios qui le permettent, ici, c'est interdit. Mais, donc, il n'y a pas de problème, mais le reste du temps, il faut éduquer l'enfant à se taire et à respecter la Megillah. Et si on pense qu'on n'arrivera pas, dans ce cas-là, il faut pas l'amener pour écouter la Megillah. Voilà. C'est-à-dire que le plus important, c'est pas d'amener l'enfant à la synagogue, c'est d'éduquer l'enfant à écouter la Megillah. D'accord? Et que si l'enfant, on l'éduque en ne pas l'amenant, des fois on va plus l'éduquer en ne pas l'amenant qu'en l'amenant. C'est ce qui explique le Mishnah Berurah ici. C'est intéressant. Il dit que des fois, quand tu vas pas amener l'enfant à la synagogue, et que il te dit mais papa pourquoi je vais pas? Tu dis je vais pas à la synagogue parce que à la synagogue il faut pas parler. Et que je pense que t'es pas encore en âge de pas parler. On a éduqué l'enfant plus que si on l'avait amené à la synagogue. Parce que l'éducation n'est pas d'amener l'enfant à la synagogue, mais plutôt de l'inculquer aux valeurs de la synagogue. Donc on peut éduquer un enfant en ne pas l'amenant à la synagogue. C'est comme ça qu'il dit Mishnah Berurah. Voilà. Donc il dit dans les mots, Yavalo, Sheyeze, Ikar, Avaat, Akatan, et Bet Midrash. Que pas que l'essentiel c'est, je l'ai amené à la synagogue. Et alors tu l'as amené? Ça change rien d'amener. Le but c'est pas d'amener à la synagogue. Le but c'est que l'enfant participe à ce qui se passe à la synagogue. D'accord. Alors, le prix Megazim rajoute, d'accord? Le prix Megazim il rajoute, il dit que il est souhaitable que chacun ait une Megillah cachère. Dans la mesure du possible. Alors aujourd'hui, une Megillah cachère, on peut en trouver entre, je crois aujourd'hui, entre 500 et 1000 euros. Hein, ça dépend de, à peu près, ça dépend de la qualité. Mais je crois que dès 500 euros, on peut trouver une Megillah cachère, qui est une bonne Megillah. Donc, il est souhaitable d'avoir chacun sa propre Megillah. Pourquoi? C'est très simple. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, en même temps que le Chazan va lire, celui qui a une Megillah cachère, il va chuchoter, il va lire en même temps la Megillah que le Chazan. Et alors? Ce qui se passe, c'est très simple. C'est que si Ras Veshalom, il y a eu du bruit et qu'on aurait manqué un mot, le fait que j'ai lu la Megillah en même temps, je me suis déjà rendu guide. Alors que si je n'avais pas lu la Megillah en même temps, que je compte uniquement sur la lecture du Chazan et que j'ai manqué un mot, c'est un problème. Donc voilà pourquoi il est souhaitable d'avoir sa propre Megillah. Et si on a sa propre Megillah, il est bon de chuchoter, de lire en même temps.
Quelle est la valeur d'une Megillah sur un smartphone?
Sur un téléphone. C'est comme sur un Chumash. Ouais, c'est comme sur un Chumash, pas de problème. Alors c'est intéressant la question que tu poses, parce qu'il y a une question qui avait été posée à des rabbanim. Est-ce que quand tu as le nom de Dieu qui s'affiche sur un écran d'ordinateur, et qu'après je passe à la page suivante, je l'efface? D'accord? C'est assourd a priori. Et donc la même chose. Au début, quand il y avait certains rabbanim qui connaissaient pas encore l'informatique, comment ça se passait, ils disaient non, c'est interdit, t'as effacé. Mais après avec le temps, comme on dit, on a compris que c'est seulement une reproduction avec des petits points. Et que ça n'a jamais été une écriture, seulement des lumières qui s'allument pour former quelque chose, et qu'alastiquement, il n'y a aucun problème. Donc c'est comme
un problème. Les imprimeurs, ils ont toujours des jeux de pages, de tests, de réglages, de calage.
Quand t'as le nom de Dieu, c'est un problème.
Ah bah oui.
Normalement, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'un Dvar Torah, c'est par exemple, c'est une petite Torah de la semaine, ou quelque chose comme ça sur lequel il y a un Dvar Torah, il ne devient Kadosh seulement lorsqu'on l'a lu. Quand on l'a pas lu, il devient pas Kadosh. Mais parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a le nom de Dieu explicite, là c'est un problème. Yudkevavke, là c'est un problème. Alors, j'ai vu J'ai vu un.
Des calendriers, par exemple.
J'ai vu un fascicule, qui s'appelle Dar Malchut, dans lequel il y a le Chumash, il y a beaucoup de commentaires sur la paracha de la semaine. Et j'ai vu là-bas que chaque fois qu'il y a écrit le nom de Dieu, Yudkiv, j'ai remarqué ça il y a deux semaines, chaque fois qu'il y a écrit le nom de Dieu, il déforme légèrement le He, les deux He de Yudkiv, ça veut dire que le He est légèrement, la barre du He est légèrement décalée, de manière à ce que le nom de Dieu ne soit pas écrit. D'accord ? Il faut vraiment le voir de près. Moi, j'en ai pas, si j'en avais ici, je vous aurais montré. C'est un Dar Malchut ? Non, un Dar Malchut en hébreu. Ils l'ont pas fait en français, non.
Ça ressemble à la
chède ? Ça ressemble à... Non, c'est la barre du, de droite du hé, ils l'ont décalé un petit peu. Elle est décalée un tout petit peu. Comme ça, ça forme pas le yutke vafke. Parce que là, dans ce cas-là, s'il a été jeté et qu'il a jamais été étudié, c'est pas très grave. Mais s'il y a le nom de Dieu qui est écrit, là, c'est un problème. C'est un problème. Bon, on a encore quelques minutes. Allez, encore quelques minutes, on continue. Alors, alors, une question intéressante qui a été posée dans la Gemara Megillah. Est-ce qu'on peut être deux personnes à lire la Megillah? Il y a un cas entier. Et on va être deux personnes à lire en même temps la Megillah.
C'est dur d'être synchro déjà.
D'accord, disons qu'on est synchro.
Ils se sont traînés.
D'accord. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Alors, explique ça. C'est intéressant comment la Gemara Megillah explique. Elle dit comme ça. Dit que si c'était pour la lecture de la Torah, c'est pas kasher. Pourquoi? Parce qu'on considère que trekala la nishmaré. Deux voix ne peuvent pas s'entendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux voix ensemble, je vais entendre ni l'un ni l'autre. Mais, pour la Megillah, c'est kasher. Pourquoi? Puisque comme la Megillah, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on attend. Pas comme la lecture de la Torah, que de toutes les façons, c'est récurrent, ça arrive toute l'année. Alors, ce qu'explique la Gemara, c'est que comme c'est quelque chose qu'on attend, alors on va prêter attention, on va réussir à entendre au moins une des deux voix. Donc c'est pour ça que c'est kasher, pour la Megillah. Alors, ce qu'on retient au passage, c'est que la Megillah, comme on l'attend, donc on va prêter attention, on va réussir à entendre des choses que toute l'année on n'aurait pas réussi à entendre. Là, dans ce cas-là, on pourra entendre les deux voix. C'est pour ça qu'il dit, le Shulchan Aruch ici, « Afilu Shnaim va Afilu Asara !» Même si c'est 10 personnes qui lisent la Megillah en même temps, « Yecholim likrota beyachad » ils peuvent la lire ensemble, « Veyotim em, veyashomim me'em » et ils seront quittes eux, et ceux qui vont entendre la Megillah. D'accord. Il y a des synagogues où?
Des synagogues où ils
s'entendent pas. Tu n'attends pas la Megillah.
Il y a 10 personnes qui veulent lire. Le Shabbat, j'ai écouté, on va pas se fouler, vous allez tous les lire ensemble. Shalom à l'Israël. Autre halakha encore à propos de la lecture de la Megillah. On a l'obligation de lire la Megillah sur texte. Ça veut dire que même si on la connaît par cœur, on a l'obligation de la lire sur texte. C'est important de ne pas sauter Chas v'Shalom, aucun mot. Si on a sauté un mot, d'accord? Alors, il y a des restrictions, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si on a sauté un mot, tant qu'on a lu le mot oralement, il n'y a pas de problème. À condition que le début de la Megillah a été lu sur texte, la fin de la Megillah a été lu sur texte, d'accord? Et que, il n'y a jamais eu un sujet en entier, donc le sujet c'est en général le paragraphe. D'accord? Mais des fois, dans un paragraphe, il y a deux sujets, mais en général c'est un paragraphe. Il n'y a pas eu un sujet entier qui a été lu par cœur. S'accrocher quand même pour dire un sujet entier par cœur. Le début était sur texte, la fin était sur texte, et qu'il n'y a pas eu un sujet entier qui a été dit à l'oral, et que, quatrième restriction, que en tout, quand on fait la somme de tout ce qui a été dit par cœur, il n'y a pas eu plus que la moitié de la Megillah qui a été dit par cœur. D'accord, donc il y a plusieurs détails. Donc, il faut s'accrocher pour arriver à ça. La Megillah est cachée.
Si on a une Megillah qui est esquintée au milieu, c'est ça?
Non, c'est-à-dire si on a une Megillah dans laquelle il manque un mot par-ci, un mot par-là, etc., c'est cachée, pas de problème.
Elle est cachée, pas de problème.
La Megillah est cachée, la lecture est cachée, mais par contre, il faut que le Chazan remplace les mots qu'il faut.
Mais il faut les lire dans l'ordre.
C'est comme un.
Ça veut dire qu'on a le droit de lire cette Megillah.
J'ai le droit de lire sur n'importe quelle Megillah, c'est pas cachée.
Non, cette Megillah qui est en parchemin dans laquelle il manquait des mots. Si on est dans les restrictions qui est ici, c'est caché, pas de problème.
La lecture.
Ça veut dire, il faut que le début soit là, la fin soit là. Il faut qu'il manque pas un sujet en entier, et il faut que la somme de tout ce qui manque ne soit pas plus que la moitié de la Megillah.
Ah ouais.
Quatre restrictions.
C'est large comme tolérance.
C'est large. Hein, c'est tranquille. Enfin,
ça veut dire que. J'ai entendu qu'il fallait pas qu'il y ait un mot sur le clap.
Il faut pas qu'on manque un mot.
Bien
sûr qu'il faut pas. Il faut pas. Mais ça veut dire que Bediavad, c'est caché, il n'y a pas de problème.
Mais s'il y a,
la lecture de la Megillah, mais attention, à condition que le Chazan complète ce qui manque. Attention, hein, qu'on soit clair.
Dans l'ordre.
Bah, en même temps, c'est lui qui a
bien sûr, l'erreur. Bien sûr, dans l'ordre.
Pas après.
Alors, autre chose, autre halakha.
Un peu une restriction inutile, ça va.
De quoi ?
Trop large.
Faut pas oublier qu'à l'époque, on avait des communautés qui étaient très pauvres.
Ouais, ils avaient une seule Megillah.
D'accord, ils avaient une seule Megillah et qu'on faisait avec son âme. Et que, elle, c'est-à-dire qu'à la limite, à l'époque, connaître la Megillah par cœur, c'était facile, mais l'écrire, c'était plus compliqué, tu vois.
Et pourquoi c'est compliqué ?
Non, mais c'était le problème de l'époque, tu vois. Ah, ouais. Tu dis à quelqu'un un problème Megillah par cœur, il dit pas de problème, demain je la connais. Quand tu lui dis écrire Megillah, elle dit ah, c'est plus compliqué, un petit village, on n'a pas de sofer, etc. C'était des problèmes.
Faut acheter le parchemin.
C'est compliqué.
Pourquoi cette méthode de la mettre en mille feuilles comme ça avant de la lire ?
Pour ressembler à une lettre. C'est un minac, ça. Pour ressembler à une lettre. Parce que les lettres à l'époque étaient comme ça. Les parchemins étaient comme ça. C'est comme une lettre. Un manuscrit.
Parce qu'il y aurait eu un système de, comme Sefer Torah, on l'enroule et puis au fur et à mesure on l'enroule.
À l'époque, parce que la Megillah est une igérette. Et les lettres à l'époque, quand la lettre était longue, quand on la lisait, on la faisait comme ça en accordéon et on tournait au fur et à mesure.
Parce qu'il faut une logistique autour du bal coréen. Il faut...
Non, ça, on a l'habitude, hein, ça.
Pour une grande.
Ok. Ouais. Alors.
Hein oui, c'est ça.
Oui, oui. On toujours. On la déballe entièrement.
Enfin, c'est un minag, mais.
C'est plus simple, hein, parce que. Après, c'est installé, hein.
Un réflexe pour l'ouvre avant de la
lire. Ouais, comme il dit, pour voir s'il n'y a pas le chèque dedans, quoi.
Il n'y a pas un chèque, c'est pour ça qu'il faudrait pas le lire.
Alors, autre chose, autre halakha à propos de la lecture de la Megillah. Si on a lu la Megillah, si on a lu la Megillah par intermittence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je lis le premier paragraphe de la Megillah, je m'arrête, je prends un café, je reviens, je continue la suite. D'accord ? Est-ce que c'est cachère ? Oui, c'est cachère.
Ah ouais ?
Mais néanmoins, on nous demande de nous efforcer de ne pas parler. Alors je vous donne un cas classique, par exemple. Vous êtes à la synagogue, et plusieurs lectures, comme Abba Trabat, Baruch HaShem, et plusieurs lectures, en plein milieu de la Megillah, vous avez une envie pressante. Vous allez aux toilettes. Donc il va aux toilettes. Il va aux toilettes, mais le Chazan, il était déjà au cinquième chapitre. D'accord. J'ai raté, donc, bien sûr, la Megillah, parce que c'était fini. La prochaine lecture, j'ai envie d'écouter à partir du cinquième chapitre. J'ai dit, bon, les cinq premiers, j'ai déjà écouté. Mais entre-temps, il y a eu deux heures au milieu. Cachère, il n'y a pas de problème. La seule chose qu'on lui demande, c'est qu'on lui demande de s'efforcer de ne pas parler. De s'efforcer.
Pendant deux heures.
Attendez, mais s'il parle, c'est quand même cachère. Il n'y a pas de problème. S'il parle, c'est quand même cachère, tant que c'était dans l'ordre. Par contre, si on a lu la Megillah dans le désordre, c'est-à-dire, par exemple, j'arrive en retard, j'écoute les cinq derniers chapitres, et qu'après, je prends à la deuxième lecture, je prends les cinq premiers, là, c'est pas cachère.
C'est pas valable.
Au cinéma, vous faites ça, vous voyez la fin du film au début.
À l'époque, aujourd'hui, tu l'as raté, c'est ça.
S'il voit la fin du film avant le début...
Il a ton Maroc.
D'accord.
Même quand on l'avait pas raté, on restait pour la deuxième séance.
Aujourd'hui, ils mettent dehors, aujourd'hui ?
Ah oui, c'est dehors.
Ok. Alors, autre chose, à propos de la lecture de la Megillah, toujours à propos de la lecture de la Megillah. Alors, messieurs, bon, cette année, je pense pas que ça nous concernera, puisque cette année, je pense que samedi soir, on sera en forme. Mais d'habitude, la lecture de la Megillah du soir vient après une journée de jeûne dans laquelle on était fatigué. Alors, nous dit le Shulchan Aruch, Kra'a mit namnem. Si le Baal Koré, il est tellement fatigué qu'il somnole. Mais il a lu la Megillah, d'accord ? Dans ce cas-là, il est quitte et ceux qui l'ont entendu sont quittes. Par contre, si celui qui entend somnole, là, il n'est pas quitte. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que celui qui lit la Megillah, même s'il a somnolé, tant qu'il a dit les mots, on ne s'occupe pas. Par contre, si celui qui a entendu qui a somnolé, peut-être qu'il a raté des mots. S'il a raté des mots, dans ce cas-là, le Yatsa, il n'est pas quitte. Donc celui qui s'endort un peu pendant la lecture de la Megillah, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le réveiller, parce que sinon il n'est pas quitte.
Mais c'est pour ça qu'il
d'accord ?
Même si c'est endormi 3 secondes, c'est fini.
Il faut pas. Il faut le réveiller tout de suite. Dès qu'il va se rendre, il faut tout de suite se réveiller. Pourquoi ? Parce que le Yatsa.
Oui. Pourtant, la bracha, elle est sur l'ikrot. Elle est sur la lecture.
Non, la bracha, c'est Al-Mikra Megillah.
C'est bien. On serait entendu vu ça, de faire un Lishmoa Megillah ou...
Parce qu'on a un principe que la Gemara Megillah explique que Shomea qui en est. Que celui qui entend la Megillah, celui qui entend en général un texte, on dit qu'il avait lu lui-même.
Qui lit et qui dort. Il est quitte et il rentre toutes les autres.
Non, là c'est technique. Là c'est technique là. Parce même qu'on dit que celui qui a lu, dès qu'il s'est endormi, c'est le cal qui va le réveiller. Et on est sûr qu'il a lu tous les mots parce que sinon on l'aurait réveillé.
C'est pas ce que j'avais compris. J'avais compris que bien qu'il somnole et qu'il continue à lire.
Mais il a lu les mots ou pas ?
Donc il rate pas les mots.
Donc il a pas raté les mots. Et les mots ils étaient là. Par contre celui qui s'endort.
Attends, s'il somnole, c'est qu'il les lit machinalement.
Très bien, mais il les a lus ou il les a pas lus ?
Il est pas dans la lecture.
Il les a lus.
Il somnole, c'est qu'il a envie de dormir, mais
alors que non, le problème que le problème de celui qui entend, c'est que quand on somnole, des fois, par exemple, des fois on va à un cours, et on écoute le cours, et bon, ouais. Des fois le cours est long et on somnole. On peut rater des détails. On le voit d'ailleurs, je dis, attends, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, après tu sais te resituer, mais tu peux rater des détails. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, j'ai manqué des mots, pas cachère, c'est pas bon, le Megillah. Alors, et autre chose, dernière à la race à l'heure.
De boire, il est autorisé de boire un liquide, mais à moins de kabet, ça, c'est ça?
Alors, bon, cette année, la question ne se pose pas.
Ouais. Oui, mais usuellement, on a le droit.
Le Schler Tibourg.
Ah.
Ouais, le Schler Tibourg. C'est toléré aussi pour une personne qui ne se sent pas bien.
Ah, oui.
Enfin, le Schler Tibourg, c'est
un café
toléré pour le Schler Tibourg. Mais c'est écrit que c'est mieux d'éviter.
Et un gâteau moins de kabet.
C'est écrit. Ça. Pour le Schler Tibourg, s'il ne se sent pas bien et qu'il pense qu'il n'arrivera pas à lire la Megillah, il va prendre un café avant. Bon, mais ça c'est...
Non, mais là, pour Motsai Shabbat, par exemple,
là, on aura le ventre plein. Ouais. On aura une bonne soudache chichite avant.
C'est le meilleur.
Comment c'est différent, cette année?
Parce que pour Rim, ton dimanche.
Bah, tu rentres chez toi, quand même. Tu fais
donc
pas Yachab.
Pour Motsai Shabbat, oui.
Mais oui.
On n'a pas le droit de prendre un café.
Si.
Ça a été...
C'est
Motsai Shabbat. On va pas faire la lecture Yachar après la fila. On attend quand même d'aller chercher les femmes,
oui, oui, un petit peu.
Il a besoin de temps. Si je prends un café...
Non, je l'avais dit. Donc, c'est là que tu vas chez lui.
Ce que je fais ici au Betrabat, c'est que la Megillah, on lit pratiquement tout de suite après. C'est la première lecture. Première lecture.
Pas tout de suite,
mais bon, pratiquement. La première lecture est à 8h.
T'as pas le temps de dormir, en fait.
Et on dit aux gens que les femmes et les enfants, ça prend du temps. On peut pas arriver en 10 minutes, un quart d'heure. Ça prend du temps. Ils le rejoignent pour la deuxième lecture de 9h.
On fait la troisième
à 10h. S'il faut, il y en a une quatrième à 11h.
On fait l'abdala après la Megillah?
Oui.
Après.
Parce que tu le dis au
ouais, donc on n'a pas le droit de voir avant
quoi?
La Megillah, tu le dis après Ashrei?
Oui, après Ashrei. On attend un petit peu, mais bon, combien on va attendre? Tu peux pas trop attendre, tu auras Tibour aussi après.
On est Ashrei, Kaddish, Shuva après la Megillah.
10 minutes, un quart d'heure, combien ça prend?
On va les Megillah
après la
Megillah. Shabbat, il va sortir à 48, je crois. 48, quelque chose comme ça? Quelle heure? 48, je crois.
Merila,
46,
une dernière petite question. Si ça tombe au hall, j'ai appris avec les halakhot là, du qui il faut faire Vata Kadosh?
Oui. Oui.
Pourquoi Vata Kadosh?
Pourquoi Vata Kadosh? Bonne question. Parce que,
depuis moi... J'aurais compris, Motsai Shabbat, on fait Shuva, d'accord, mais le rôle après la Megillah Vata Kadosh, le rapport avec...
Vata Kadosh? Attends,
je
vais...
Je crois qu'on le fait pas parce qu'après la
Megillah... Si, on le fait,
Après la Megillah, on fait Shuva les Tzion. Donc c'est pas le faire tout ça.
C'est de ça,
non, ça
c'est
Motsai
Shabbat, je te parle la semaine.
Lundi
soir, ça tombe la
Megillah.
Prends le fait.
J'ai lu
la raison.
Non,
mais
Vata Kadosh.
C'est la même chose.
Non, on va les Tzion.
Mais tu avais Vata Kadosh, donc on va les Tzion.
Je parlais de la même chose. Pas de la même chose, mais on commence à Vata Kadosh, on commence pas avec Vata Kadosh.
Non, mais là, Vata Kadosh, on parle.
Alors voilà, Vignon, Vata Kadosh. Alors attendez. Alors, hein. Megillah, prends du Vinoam.
Mais le Meslam,
c'est Shabbat,
c'est Shabbat directement, donc le problème ne se pose pas. Parce qu'on fait bien Takadosh après Shabbat. Quoi qu'il arrive à Takadosh, il vient après Shabbat.
Oui,
je dis pas. J'ai lu la raison une fois, ça m'échappe.
C'est obligatoire.
Rappelez
moi, ça échappe, tu fais Shabbat.
Bon, Binéder, j'essaierai de voir.
Ouais, Mechila, mais justement, je me posais la question, c'est
parce qu'il avait mal noté.
Non, il n'a pas mal noté du tout, c'est écrit. C'est Siman Tavash Tazikimel. Achakret Megillah, Béarvit, Omer Vatakadosh, Imrab Motsai Shabbat, Omer Vinoam Vatakadosh.
Vinoam.
Ça c'est parce que.
Ah d'accord.
Ça c'est.
Mais Shuva quoi, ça veut dire.
Shuva, voilà. Ouais, mais.
Et Tit Kabbal.
On dit toujours Vatakadosh.
En semaine, on fait Tit Kabbal après Vatakadosh.
Oui, toujours ça, mais la question c'est prends Tit Vatakadosh.
Mais non, mais Motsai Shabbat, on fait Tit Kabbal. On fait Hatti Kadish.
Tit Kabbal c'est après. Tit Kabbal c'est après.
Je m'en aiderai, Hatti Kadish.
Bon, je vais réveiller la raison, si je trouve la raison, je vous dirai. Rattachez.